pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde autour de la question de la guerre, une question de frontière. On a vu le concept de frontière radicalement changer ces derniers temps, et ce qui provoque un changement lui-même dans la guerre elle-même. Et du coup, on va essayer de voir si ces changements se déroulent aussi au sein de la science-fiction. Je pense que vous vouliez dire quelque chose autour de ça.
Oh, c'est un peu une remarque préliminaire et qui n'a pas grand rapport avec la science-fiction ni avec la fantasy. Mais il y a peut-être une vingtaine d'années, même un peu plus, en tant qu'économiste, j'ai été amené à m'intéresser à la question des zones frontières. Et j'ai été frappé par le fait qu'entre la France et l'Allemagne, par exemple, à l'époque, donc à la fin des années 70 ou au début des années 80, et même entre la France et la Belgique, ce qui est plus surprenant, il y avait d'immenses zones intermédiaires qui étaient pratiquement laissées en friche, qui étaient des zones de sous-développement. On avait des routes qui allaient nulle part, il n'y avait pas d'emploi, enfin, ni rien. Et j'ai préparé un dossier pour la communauté européenne, enfin, via la Caisse des dépôts et conciliations pour laquelle je travaillais, sur ce thème, enfin, développer les zones frontalières. Bon, alors je pense que beaucoup a été fait depuis, même si mon projet, à ma connaissance, n'a eu aucune suite. Alors, c'est un point de vue un peu différent, un peu paradoxal par rapport au sujet de cette table ronde, qui est les zones frontalières, non plus zones de guerre, mais devenues des zones de friche, parce qu'elles ont trop longtemps été traversées par des guerres.
Il me semblait que vous vouliez aussi parler du changement entre la guerre et les frontières. Le fait que le concept même de frontière ait changé aurait provoqué un changement de la guerre elle-même, ou est-ce que ce serait la guerre qui, changeant, aurait provoqué un changement du concept même de frontière?
Oui, alors, à mon sentiment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses très étranges. Il y a plus d'une centaine de guerres ont eu lieu. Un très petit nombre d'entre elles ont été des guerres sur les frontières. La guerre de Corée, la guerre Iran-Irak, et comme le rappelait récemment mon voisin, l'invasion du Koweït par l'Irak, qui entre dans une catégorie en elle-même un peu singulière. Mais la plupart des conflits, et c'est ce qu'on retrouve certainement dans la fantasy et dans la science-fiction, ont été soit des guerres civiles, en tout cas des guerres internes, et ou bien des conflits qui n'ont pas toujours fort heureusement pris la forme de guerre entre des puissances qui n'avaient aucune frontière commune. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Enfin, on peut difficilement imaginer au XIXe siècle une guerre entre le Brésil et la Prusse. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire de la guerre froide pour que vous voyez à quelle idée, enfin à quel concept je pense. Et ce brouillage des cartes, des frontières et des espaces de guerre s'est encore affirmé avec l'apparition et le développement de ce qu'on appelle les conflits asymétriques, qui donne naissance, enfin qui donne lieu à des actes de terrorisme entre des forces extraordinairement inégales. Et puis alors à une dernière variété, là nous rapprochons beaucoup de la science-fiction, ce qu'on appelle la cyberguerre, dont personne ne sait si elle a déjà été essayée, si elle a déjà commencé ou non, mais qui menace indiscutablement, c'est la tentative de pirater et de prendre le contrôle des ordinateurs stratégiques de l'adversaire, enfin, et en douce, lui causer de sérieuses difficultés. Enfin, il y en a quelques exemples assez rares, certains, il y en a d'autres beaucoup plus incertains. Alors, c'est bien que la guerre, là, ne se déroule plus sur le terrain, ou à l'occasion ou autour ou auprès d'une frontière qu'il s'agit de transgresser, mais dans un espace totalement symbolique, qui est l'espace de l'informatique.
Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous voulait rajouter quelque chose?
Yeah, I think that is very wise statements.
Je pense que ce sont effectivement des déclarations très sages.
It's interesting that most of humankind's experiences with war have not prepared it for the wars that are being fought during our day.
Je pense que les expériences passées de l'homme concernant la guerre ne l'ont pas préparé à vivre la guerre telle qu'elle se fait aujourd'hui.
And if you look at something like the quote-unquote war on drugs that was declared, which has been a fantastic failure, because the world's major powers are really good at fighting wars where they can find the enemy.
Et je pense qu'on peut prendre l'exemple de la dite entre guillemets guerre contre la drogue qui a été lancée et qui est un échec spectaculaire, parce qu'on se rend compte que les grandes puissances sont très très bonnes pour faire la guerre à partir du moment où elles savent trouver l'ennemi.
But if they can't find the enemy, it's terrible. For the large armies, they don't know what to do, and we're really kind of still struggling blindly how to fight against terrorism or these aspects of new wars.
Mais donc on se rend compte que, par contre, quand ces armées ne savent pas localiser l'armée, ne savent pas quoi faire, et ça donne des résultats terribles. Donc quand c'est extrêmement difficile, quand l'ennemi en un sens est aveugle, comme cet exemple de la guerre contre la drogue ou la guerre contre le terrorisme, où les armées ne savent pas qui affronter.
And a final thought, I think that science fiction and fantasy, the purpose is to explore what could happen or what will happen, and the nature of war changing is a big challenge, I believe, to science fiction and fantasy writers who are exploring these aspects.
Je pense que une des fonctions de la science-fiction et de la fantasy, c'est d'explorer en quoi, quelles sont les conséquences de ces changements de la guerre, en quoi cette guerre peut changer et qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est probablement un des grands défis aujourd'hui, justement, de réfléchir à ces questions-là et de les utiliser dans les histoires.
Oui, pour faire écho à ce que disait mon voisin, dans son dernier roman publié, en tout cas, Werner Vinge, qui est un spécialiste de l'informatique, introduit à la fois la cyberguerre de façon très convaincante et la guerre interne qui n'est pas, à proprement parler, une guerre civile, mais une lutte antiterroriste. Alors les États, dans l'état actuel des choses, les États sont très mal, comme le disait Sanderson, sont très mal équipés pour affronter un adversaire qui n'est pas lui-même un État. Ça rejoint un petit peu un problème auquel l'espèce humaine a été confrontée depuis très longtemps. Attaquer le tigre à dents de sabre, enfin se défendre contre lui et le liquider, c'est possible, ça a été fait. Attaquer des adversaires minuscules, mystérieux et qui l'envahissent, les microbes, les virus, est-ce que tout ce que vous voudrez, c'est beaucoup plus difficile et ça n'a été réussi que partiellement et que très récemment. Et c'est à ce genre de problème que les États se trouvent aujourd'hui confrontés, à mon sentiment.
Et donc ces changements dans la guerre nouvelle se traduisent comment dans vos romans? Est-ce que ce changement apparaît ou est-ce que il y a toujours une part de l'ancienne version de la guerre d'État à État, ou est-ce que la science-fiction et la fantasy ne permettent pas d'essayer de trouver aussi d'autres modes de frontières et hélas aussi de guerre?
Moi j'avoue que dans La Volonté du Dragon, j'ai une guerre assez classique, puisqu'on a un grand empire très développé qui vient frapper aux portes d'un petit royaume médiéval et qui, comme tous les grands empires très développés, considère que le monde, s'il était dominé exclusivement par eux, ce serait un endroit beaucoup plus sympathique. Et les gars en face ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, je reste quand même globalement plus dans une question d'opposition classique entre une puissance militarisée, technologiquement assez développée, et un pays plutôt médiéval, donc un conflit pour le coup très asymétrique, mais au niveau de l'équilibre des forces. Mais là, c'était, en l'occurrence, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Comment un royaume, qui, enfin, un tout petit pays minuscule, qui est à peine sorti de l'ère médiévale, qui a une condition qui est très ancrée dans la tradition, comment est-ce que, quand on est ce pays-là, on se défend face à un envahisseur qui a un continent entier à sa botte et qui possède des machines? Et c'était ce genre d'opposition là qui m'intéressait. Derrière, pour revenir sur la question de frontières, je pense qu'il y a une, c'est un peu une lapalissade de dire ça, je pense qu'il y a une frontière qui reste toujours fixée et qui est ce qui gouverne finalement la guerre. C'est ce que dit Clausewitz, je crois. La guerre, ce n'est que la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Derrière ça, il y a une question tout simplement de frontières irréconciliables, d'idéologie derrière. Et effectivement, sur le terrain, la guerre est peut-être très difficile, mais à la base, c'est le plus tragique de la chose, c'est qu'on a une frontière irréconciliable entre probablement deux façons de penser.
La formule de Clausewitz m'a fait penser à une de mes signatures qui est diamétralement opposée, la diplomatie et la guerre continuées par d'autres moyens. Et c'est quelque chose que j'ai vécu.
Et il me semble que, au moins dans Les Seigneurs de la Guerre, votre conception de la guerre est totalement, totalement différente, puisqu'elle elle s'absout du temps. Et en s'absolvant du temps, finalement, s'absout aussi de la frontière, de l'espace, et devient quelque chose d'absurde, quelque chose, un jeu.
Enfin, dans Les Seigneurs de la Guerre, je ne dirais pas exactement que c'est absurde. Bon, c'est un roman qui est déjà ancien, mais qui met en scène la guerre sur une autre frontière, la dernière frontière, qui n'est pas celle de l'espace, qui est celle du temps. Alors je suis loin d'être le premier à avoir utilisé l'idée de la guerre temporelle. Ça a été fait par Clifford Simak dans De temps à autre. Ça a été fait par l'immense Fritz Leiber, si je me souviens bien. Enfin bon, il y en a eu des tas. Dans mon roman, j'imagine autre chose, c'est-à-dire une espèce de frontière de l'univers, frontière pour le coup, qu'on appellerait aujourd'hui une branle, comme Michel Jury me le rappelait tout à l'heure. Et sur cette immense frontière de l'univers se déroule, sur cet espace infini, se déroulent toutes les guerres de l'histoire qui sont reconstituées. On a ressuscité les combattants et elles se déroulent sans fin parce que la guerre y apparaît comme un patrimoine de l'humanité. Alors il faut évidemment prendre ça avec précaution et ironie. Je dois dire que quand j'ai écrit ce roman dans les années 70, longuement et difficilement, et je sortais d'une guerre typiquement asymétrique qui était la guerre d'Algérie.
You ask interesting questions. This work for you? Because in my mind, science fiction and fantasy is about boundaries and exploration and crossing those boundaries and discovering those boundaries.
C'est une question très intéressante parce que, à mon avis, pour moi, le sujet de la science fiction et de la fantasy, c'est de traverser les frontières, les explorer.
Yeah. In my books, stories, all stories, are about conflict. And war is one of the most recognizable, most passionate, most destructive, and most awful forms of conflict. And so I try to use it as a method of influencing characters in that way.
Donc, de toutes mes histoires, de tous mes romans, il y a toujours une histoire, il y a toujours des conflits. Le type de conflit le plus passionné, le plus reconnaissable, le plus caractéristique, c'est la guerre. Et c'est un moyen de faire travailler mes personnages.
You asked specifically about our books. In Mistborn, The Final Empire, one of the reasons I wanted to tell this story is I wanted to look at the idea of revolution Which is a non-traditional war, which is a new type of war that we have been dealing with the last couple hundred of year, hundred years.
Vous demandiez particulièrement dans nos romans, et donc dans ce roman Fils des brumes, il y a l'idée d'une nouvelle révolution, d'un nouveau type de révolution, un nouveau type de guerre qui est apparu dans ces dernières années.
Specifically, I wanted to look at the effect that such a war, a internal revolution, has upon the people participating in it, and the slow realization that, number one, tearing something down is much more difficult than building it up, and number two, what to do when you start to realize that those you resisted may not have been as evil as you thought they were.
Et en particulier, je m'intéressais à l'effet qu'avaient ces guerres sur les gens qui y participaient. Premièrement, le constat que détruire, c'est beaucoup plus compliqué plus simple, que de construire. Et d'autre part, la réalisation peut-être après coup que ceux qu'on combattait, ceux qui nous ont résisté, n'étaient peut-être pas si mauvais que ça, n'étaient pas forcément des mauvaises personnes.
Il y a dans cette idée de nouveaux conflits, de révolution, il y a vraiment toute la façade présente énormément dans toute la science-fiction et la fantasy. De la rébellion contre le pouvoir établi, contre ce qui nous est imposé. Comment vous avez utilisé cette rébellion dans votre roman? Il me semble que c'est quelque chose d'assez particulier, puisque ça utilise un aspect que dans une révolution on ne pense pas voir, c'est-à-dire la religion. La religion.
For those who don't know what the book is about, Mistborn is the story of a world where there was a prophesied hero, much like in many fantasy stories exist, who was supposed to save the world, and he failed, and the Dark Lord took over the world.
Donc pour ceux qui ne savent pas de ce dont parle le livre, c'est l'histoire d'une prophétie, d'un héros d'une prophétie qui est dans le rôle dans la prophétie est de sauver le monde, mais il se trouve qu'il échoue et donc c'est le mal qui l'emporte.
And the story is about a group of thieves who try to overthrow this dark lord, this emperor, this immortal being by robbing him silly and bribing his armies away from him.
Et donc l'histoire c'est l'histoire d'un groupe de voleurs qui essaie de renverser ce monde ce seigneur maléfique et immortel en achetant son armée pour la lui dérober.
And you mention religion, which is a fascinating thing to me. I am fascinated by religion. And this immortal God, his name is the Lord Ruler, has created a religion to worship him. He's not really a god, but he is something. No one knows really what he is, but he is the dark force that was supposed to be defeated and won instead. And there is a quiet form of subversion, a quiet war going on in the book.
Et donc, la religion, c'est typiquement, c'est vraiment une idée, un concept qui me fascine. Et, donc, il y a ce seigneur immortel, dont le nom est... Seigneur maître, voilà. Merci, Mélanie. Et donc, qui est... qui a créé. Je vais pas lire mes notes. Donc dans la religion, la religion a été créée pour le vénérer. Il était censé être battu, mais il a gagné à la place. Donc il y a tout un concept de guerre cachée ou une guerre silencieuse qui est mise en place.
And what's going on is there is a character who resists this oppression of religion by collecting and researching all the religions that used to exist. And he fights a war by becoming a minister who preaches all of these other religions. So he has 300 and something of them memorized, all of their precepts, and there are no worshippers left of these religions. They have all been killed by the Lord Ruler.
Et donc, dans ce récit, le personnage principal, sa manière de résister à l'oppression de cette religion, c'est de récolter toutes les autres religions, il y en a jusqu'à 350, des autres religions qui ont existé par le passé, mais dont tous les membres ont été annihilés par le Seigneur Maître. Et il va combattre cette religion unique en étant, si on veut, le ministre de toutes ces religions historiques qu'il a récoltées.
And so he fights his war by finding people, talking to them, picking the religion that he thinks fits them, and trying to convince them to follow that religion. And he's just one of the people that are fighting a very different kind of war in the underground, the revolution.
Donc c'est juste un des personnages qui combat cette religion. Et il le fait en allant vers les gens et en regardant quelle religion leur conviendrait et en les faisant adopter cette religion qui crée pour eux sur mesure, si on veut.
Alors je trouve la dernière idée extrêmement intéressante. Elle rejoint un petit peu celle qu'expose Frank Herbert dans Dune avec la Missionaria Protectiva qui instille dans des populations des religions très habilement inventées de façon à protéger les membres du Bene Gesserit. Enfin, cela étant, avec tout le respect que je dois à M. Sanderson, ce dont il paraît est en partie ce qui me gêne dans la fantaisie, appelons les choses par leur nom, c'est-à-dire le manichéisme et l'opposition frontale entre le bien et le mal. Quand on a une expérience un peu directe d'un conflit, même si on est presque par obligation dans un camp ou dans l'autre, on découvre très vite que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça dans la réalité. Et je pense que des œuvres de science-fiction reflètent mieux cette complexité, le fait que tout n'est pas blanc ou noir. Je pense en particulier aux conflits qui sont décrits dans le cycle de la culture, la série de la culture de Ian Banks, où il y a de véritables conflits, avec des guerres idéologiques plutôt que des guerres territoriales. La conquête de territoire n'intéresse généralement aucun des deux parties. Mais Banks excelle à montrer, même si c'est toujours la culture qui est du bon côté, encore que, excelle à montrer à quel point dans les deux camps les situations sont complexes. Les gens de la culture, par exemple, l'emportent, mais ils en retirent presque toujours un immense sentiment de culpabilité qui peut les amener même à se retirer de la vie. Et c'est cette complexité extrême des conflits entre groupes humains et entre États qui me semble quelque peu sous-estimée. Mais mes interlocuteurs, enfin mes voisins et amis vont certainement me contredire, qui me semble un peu sous-estimée en général dans la littérature de fantasy.
Bon, évidemment, moi j'aurais plutôt tendance à dire que la fantasy n'est pas forcément manichéiste. Ce qui est intéressant, je trouve, qu'elle permet de faire dans son cadre et quand elle traite de la guerre, c'est justement tout son rapport au mythe, à l'inconscient collectif, à l'archétypal, à tout ce terreau dont elle se nourrit. Et c'est pas forcément parce qu'on est archétypal qu'on est manichéiste et que manichéen, pardon. Et donc, je pense qu'il y a une complexité plus importante que ça. Si je puis prêcher pour ma paroisse, en ce qui me concerne, c'était justement ce qui m'intéressait dans La Volonté du Dragon. C'était une opposition entre deux cultures et les gens pris au milieu qui, finalement, se regardent dans le blanc des yeux à quelques encablures sur des navires, en attendant, limite en se tournant les pouces et en déjeunant, quand est-ce que le signal va arriver? Ces gens se regardent, à la limite, ils pourraient prendre une chaloupe, aller se serrer la main et boire un coup. Et puis parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui décide que il faut y aller, il faut envoyer les chevaux, ces gens se retrouvent à s'affronter. Et, donc, à mon humble avis, la fantasy permet, parce que la science-fiction elle est aussi bien sûr traite ce terreau-là, mais la question de la guerre en fantasy pour moi est plus complexe que ça. Humilité, c'est ce que en tout cas j'essayais de faire avec justement deux camps qui sont des cultures humaines, donc il y a des côtés révoltants et des côtés positifs chez les uns comme chez les autres. Malheureusement, les gens ont tendance à faire des erreurs.
Bon, j'ai pas dû lire suffisamment de très bonnes fantaisies, mais l'intrigue que tu évoquais tout à l'heure, si j'ai bien compris, l'affrontement entre une toute petite principauté et un grand empire, c'est bien ça, me rappelait, sans qu'il y ait aucun lien direct, un roman qui était lisière de la fantaisie, qui est paru il y a bien longtemps, qui s'appelait La souris qui rugissait. C'est l'histoire d'une toute petite principauté dont les finances sont dans un état absolument épouvantable. Enfin, ils ne peuvent même pas déposer leur bilan, mais enfin, ils cherchent fébrilement à comment sortir de cette difficulté financière. Alors, ils trouvent un moyen génial. Ils disent, c'est très simple. Les Allemands, les nazis plutôt, se sont trouvés en guerre avec les Américains. Les Japonais se sont trouvés en guerre avec les Américains. Les Américains les ont battus et les ont reconstruits. On va attaquer les États-Unis. Ils attaquent l'Amérique. Manque de peau, ils gagnent.
I will say that I do think there is a legitimate argument that much fantasy has simplified war throughout the course of its history by focusing on the good and evil paradigms, one side or the other.
J'admets que beaucoup de la fantasy qui existe a eu le défaut de simplifier la guerre en se concentrant sur une opposition bien mal.
I think it depends on the type of book that one is trying to write and what one is looking for. You will find much science fiction that will do it the same way. As much as I like it, something like Star Wars is a very big simplification of the concept of war.
Star Wars is not science fiction, it's fantasy.
Okay. But all space opera, I'll say.
Yeah. So, ça dépend bien sûr du type de livre qu'on cherche à écrire ou à lire. Et donc, pour moi, je pourrais citer, il y a aussi beaucoup de la science, il existe la science-fiction qui adopte ce même manichéisme. Et donc, il y a même des gens qui prennent Star Wars comme exemple de conflit. Donc, Star Wars étant bien entendu vu comme manichéen.
But a better example would probably be Buck Rogers, Flash Gordon, all of the space opera and adventure fiction is going to have this same criticism.
Un meilleur exemple, ce serait Buck Rogers, Flash Gordon. Pour moi, tout le space opera subirait la même critique.
But those stories are trying to do different things. I don't think it's a nature of the genre, but more a nature of the author and the goals. If one reads George R. R. Martin or David Gemmel, one will find extremely multi-sided, detailed, realistic depictions of war.
Je pense que c'est pas c'est pas une propriété du genre, mais c'est une propriété du but recherché par l'auteur, et donc c'est de l'auteur en fait. Et si on lit quelqu'un comme George R.R. Martin, on va trouver des descriptions ou des situations beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes qu'une simple opposition du bien et du mal.
Alors, la faute de mon erreur de jugement manifeste, toute évidence, vient d'une lecture trop approfondie de Tolkien, où entre Gandalf et Sauron, il me semble que...
No, Tolkien, this argument is valid against Tolkien, I believe.
Je pense que c'est un argument crédible face à envers Tolkien.
Though I love Tolkien, but it is an argument valid, a valid argument.
Je l'adore, mais c'est un argument que je respecte.
Le manichéisme permet aussi le fait de montrer deux adversaires visibles des deux côtés. C'est ce qu'on disait au début. Alors que actuellement, dans le monde, cela a changé. Il n'y a plus l'adversaire que l'on voit, que l'on connaît. Et c'est la difficulté de beaucoup d'États pour lutter contre ce qu'on appelait les conflits asymétriques, c'est ça ?
Oui, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits asymétriques. Il faut bien voir que les États, enfin, bon, on sort un peu du champ de la science-fiction et de la fantasy, mais les États, qui sont une invention relativement récente, sont tous constitués sur une base territoriale. Or, cette base territoriale est en train, en partie, de se dissoudre. Alors du coup, on est confronté à des choses très originales, très différentes, et que les États ne sont pas équipés pour traiter convenablement.
I think that yes, I was going to say more, but yes, I think that one of the reasons that we enjoy fiction like science fiction and fantasy is because we like to believe that one person can have a great deal of influence over the world around them or over a conflict.
Donc oui, j'allais dire quelque chose de plus développé, mais je pense qu'une des raisons pour laquelle on apprécie et on lit de la science-fiction et de la fantasy, c'est parce qu'on aime l'idée qu'une personne pourrait changer la face du conflit.
And this is a horrible simplification. And yet it's a necessary one in many ways, because writing a novel in which you show the thousands of parts that thousands of people have in a conflict and reducing any one certain person's involvement in that conflict to their realistic state makes for a very difficult novel to write.
Donc c'est une simplification simplement vraiment horrible, mais malgré tout nécessaire, parce que si on devait écrire un roman où on devait considérer les milliers de gens qui prennent part dans un conflit et réduire leur le rôle à la proportion réaliste, ce serait très très dur à écrire.
And so, in fiction, we create stories in which someone like Ender Wiggin from Ender's Game, or in which, you know, in which the characters are the decision makers and are capable of vast amounts of influence in order to simplify the story, but it might be a disservice what we are doing.
Et donc dans la fiction, dans une histoire, on va faire quelque chose comme Ender
Wiggin. La stratégie Ender.
On va mettre en scène un décideur qui a un pouvoir immense, de manière à pouvoir avoir une influence immense sur le conflit. Et donc, ce sera une simplification très grande. Et peut-être que ça ne rend pas service à notre représentation du conflit.
Moi, j'ai un peu l'impression, très humblement, que en fait, quand on Donc effectivement, hein, comme vous disiez, il y a quand même effectivement, comme on parlait avec Tolkien, il y a toute une branche de fantasy qui est assez manichéenne, avec cette question très tranchée entre le bien et le mal. Mais je pense que prendre ces récits-là comme étant des récits traitant de guerre, à mon avis, ce n'est peut-être pas la lecture adaptée à ces récits-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans une représentation qui s'efforce de se montrer vraisemblable, réaliste par rapport aux réalités de la guerre ou du conflit, si on prend Tolkien par exemple. On est dans, en fantasy en tout cas, et ça pourrait peut-être être même dit pour certains pulp et romans d'aventure, on est plus dans, à mon avis, une filiation par rapport à la lecture du conte. C'est-à-dire que, on est dans un monde avec des règles établies, par exemple, Cendrillon, tu rentreras pas avant minuit, sinon tu vas rentrer à pied. De la même façon, la donnée entre le bien et le mal, c'est une donnée de base de l'univers. Sauron et les méchants, point. De quoi finalement cette histoire-là nous parle ? Je ne suis pas convaincu que le cœur du Seigneur des Anneaux, ce soit cette histoire d'affrontement ou de guerre. Pour mon humble avis, ces récits-là, cette espèce d'affrontement sert juste d'été à porter le voyage de quelqu'un, comme dans le conte. Dans le conte, on a des oppositions frontales, il y a des choses à résoudre, une quête à accomplir. La raison de cette quête-là n'a pas forcément de grand intérêt. Ce qui est intéressant dans ces récits-là, et c'est ce qui intéresse le lecteur, l'enfant, si on prend les contes pour enfants, ce genre de choses, c'est ce que ça va apprendre, est-ce que ça va porter au héros qui va grandir, muter, apprendre des choses, être quelqu'un de différent à la fin de cet affrontement-là. Et à mon sens, c'est cette lecture-là et c'est de ça dont ces choses-là parlent plus que des questions de guerre ou de géopolitique.
Oui, je crois d'ailleurs qu'il faut dire, je serai le premier à le faire, à la décharge de Tolkien, que Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, est écrite, en tout cas publiée au début des années 50, donc bien après la Seconde Guerre mondiale, et que dans la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme, apparaît effectivement une incarnation du mal, sans discussion possible. Alors Tolkien s'est toujours défendu d'avoir été inspiré de quelque manière que ce soit par la Seconde Guerre mondiale, mais il est difficile de ne pas y penser.
Forcément le produit de son époque aussi.
You know, this, I think, is another evolution in war that has happened in recent times. Previously, that's how everyone thought. The enemy was implied as subhuman, whatever country you were in.
À mon avis, c'est une évolution récente de la guerre. Avant, les ennemis, on les considérait comme sous-humains.
And it's actually a very modern thing, the last 30 or 40 years, to start thinking of the enemy as even human. In the 40s, the 30s, no one, you know, the propaganda was such, you were not encouraged to think of the Nazis as people with children who were just doing what their government said, in the most cases, not horrible people, but just another soldier following orders. That wasn't how you thought.
Et c'est donc c'est vraiment une conception moderne, peut-être des 30-40 dernières années de la guerre, qui veut qu'on interprète ou qu'on reconnaisse son ennemi comme humain. Et précédemment, dans les années 30 ou 40, la propagande incitait les gens ou n'incitait pas les gens à considérer les nazis, par exemple, comme des gens avec des enfants qui faisaient que obéir les ordres du gouvernement.
Alors, Monsieur Sanderson, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que l'idée de considérer l'adversaire comme humain est une idée très ancienne. L'Iliade est entièrement construite, la description de la guerre de Troie par Homère est entièrement construite sur l'humanité de l'adversaire. Et l'humanité de l'adversaire au point qu'on lui rend des honneurs et que parfois on organise des trêves, on verra tout à l'heure. Et on peut trouver dans beaucoup de récits de guerre depuis la guerre de Troie, enfin depuis l'Iliade, cette même reconnaissance de l'adversaire comme un être humain à part entière. Même chez Xénophon dans l'Anabase, par exemple, à l'issue de cette terrible guerre entre les Grecs et les Perses et les Mèdes, Bon, mais clairement, il considérait les Perses comme, comme des êtres humains. D'ailleurs, le comportement d'Alexandre quand il clôt toute cette histoire, les égards qu'il a, aussi par calcul politique, pour ses adversaires vaincus, sont tout à fait caractéristiques. Moi, j'aurais tendance, au contraire, à penser que l'inhumanité de la guerre et l'inhumanité de l'adversaire, il faudrait mettre un bémol à cause des guerres de religion, mais quelque chose de relativement récent qui apparaît en Europe, en tout cas, avec les guerres de l'Empire, faire l'analyse serait beaucoup trop long et compliqué ici. Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs, souvent à la science-fiction ou à la fantasy. Mais dans les guerres de l'Empire, qui sont largement les premières guerres totales et les premières guerres idéologiques, de part et d'autre, il y a une volonté de déshumaniser l'adversaire et la leçon ne sera pas perdue pour tout le monde.
I will agree with that to an extent, though I'm not sure if I accept the Alexander and Darius representations as anything more than poetic fancy. In many very ancient wars, and even among tribal wars in more modern eras, you find quite a bit of respect for the other warrior, so you are correct. It is the recent empire wars that have done this.
Peut-être du jour finalement où ces guerres sont finalement devenues des guerres de cartes avant d'être des guerres de terrain.
Je vais juste traduire. Donc je suis d'accord jusqu'à un certain point, et donc je suis pas certain que dans le cas d'Alexandre ce soit vraiment plus que de la fantaisie poétique, mais il est vrai que dans les anciennes guerres on avait ce concept du respect pour son ennemi.
Enfin bon, pour revenir à Alexandre, il y a tout de même, pourtant que je me souvienne, parce que ça s'est déroulé il y a longtemps, certes j'étais là, mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Bon, Alexandre défait Darius, qui va s'enfuir et finalement mourir, se suicider, je crois. Mais Alexandre traite tout à fait humainement la cour de Darius, et en particulier ses épouses, enfin son épouse principale et ses filles. Et non seulement il les traite humainement, mais il leur annonce qu'il leur arrivera rien de grave. Et, bon, là, il a un sens de l'honneur qui reconnaît l'adversaire comme un être humain à part entière.
Well, yes, but Alexander wanted his kingdom and to marry Darius's daughter, which is why he was doing. But that's all. That's so distant past. There are reasons Alexander did what he did, and he was a brutal, horrible man who then had lots of time to rewrite history for himself.
La raison pour laquelle Alexander l'a fait, c'était simplement qu'il voulait marier la fille de Darius. Mais tout ça, c'est trop vieux. Et Alexandre avait de toute façon plein de raisons pour faire tout ce qu'il a fait.
He wanted to be pharaoh, and he wanted... Yeah, anyway, no, let's just skip that. Well, this is a complete tangent. Let's let you take us back to what we're supposed to be talking about.
On va revenir dans le débat.
Je pense aussi, mais bon, comme tout le monde semblait lancé, je me suis dit que ça intéressait tout le monde. Donc. Du coup, je pense que on peut prendre quelques questions puisqu'on va arriver vers la fin du débat. Donc, si certaines personnes ont des questions.
Je suis pratiquement d'accord avec ce qu'a dit Gérard. La notion de déshumanisation de l'adversaire, elle apparaît, je dirais, un tout petit peu avant la guerre de l'Empire. Elle commence déjà avec les révolutionnaires. Mais elle apparaît à partir du moment où la guerre n'est plus une affaire de soldats entre eux. Les soldats se respectent. Ils ne respectent pas les peuples qui les envahissent, mais ils se respectent entre eux. Tandis qu'à partir du moment où c'est une guerre où sont impliqués les peuples ne se respectent pas l'un l'autre.
You know, I think part of that reason for change might be that a lot of the earlier wars were not with the foreign, but with the same. You were fighting other Greeks, or at least other Europeans, or other people from tribes like yours. And but I wonder how the Greeks treated the invasions from East Asia, or how the Romans looked at the Vandals and people from very distant. I wonder how they treated them, or if there was dehumanization back in those sorts of fights.
Je pense la raison pour ça, c'était qu'à l'époque, on parlait de conflits internes entre Grecs et Grecs, entre différentes peuplades grecques, mais il est pas sûr, je ne suis pas sûr comment est-ce que les Romains auraient traité d'autres peuplades, etc. Donc comment est-ce que, à l'extérieur des frontières de chaque État.
I think this is very relevant to us, because science fiction and fantasy is often about conflict between the very extremely different. When we are dealing with aliens or other races that don't exist in our current understanding.
Et je pense que c'est pertinent parce que souvent dans la science-fiction ou la fantasy, on parle de conflits entre des peuplades très très différentes, peut-être même des extraterrestres qui n'existent pas dans notre compréhension actuelle du monde.
J'ai plutôt tendance à je crois que en ce qui concerne l'Empire romain était les Grecs aussi, quoique moins. Il me semble qu'ils amalgamaient quand même beaucoup les peuplades qu'ils conquéraient, c'est-à-dire qu'ils les fédéraient en un sens, et à partir du moment où ils avaient accepté de se soumettre à la bannière espécuaire, l'armée locale était constituée des locaux. Et plus pour le coup une question d'extension de frontières, mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait cette espèce de ralliement, et on disait vous faites partie de l'Empire, mais vous allez continuer à vous défendre vous-même à la limite. Mais vous le faites au nom de l'Empire, il me semble.
Oui, c'est l'Empire romain a constitué le plus vaste empire économique, la Chine mise à part, qui n'a jamais existé avant le XXe siècle, enfin l'Europe unie, etc. Alors, il y a un aspect des guerres qui n'a pas du tout été abordé, qui paraît très important, et en plus qui est fondamental dans la science-fiction, avec la guerre des mondes d'Herbert George Wells, c'est la guerre coloniale. Wells décrit une guerre coloniale et l'entente n'est pas possible avec les Martiens parce qu'ils considèrent précisément les humains pas comme des Martiens, pas comme des humains, uniquement comme du bétail. Or, ce sont des choses qu'en Afrique et ailleurs, on a plus ou moins entrevues.
Il y a aussi, moi c'était en l'occurrence la dimension qui m'a intéressé. Bon, évidemment, il y a tout un tas d'aspects à ce problème de guerre coloniale et je ne me prétendrai certainement pas expert de la question, loin de là. Mais il y a une problématique qui, je trouve, est assez intéressante et que l'ASF et aussi la fantasy permet de faire, c'est la bonne intention du conquérant, qui est persuadé qu'il apporte ce que faisaient les Grecs aussi. Alexandre le Grand, quelque part, il était aussi, même s'il voulait effectivement se constituer son empire à sa mesure, il y avait quand même le côté j'apporte la sagesse et le développement hellène là où je vais. Et il y a aussi cet aspect-là que la SF permet quand on.
Pardon ? Pourquoi c'était pas vrai ?
Les peuples conquis n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils en est voilà. Donc c'est effectivement dans l'aspect guerre de colonisation. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où le conquérant, en plus de considérer les peuples qui conquièrent comme de la ressource, mais il y a aussi l'aspect je vais évangéliser. Voilà.
Je crois qu'on avait une autre question.
Alors, Monsieur Davoust a très justement souligné le côté conte de certains récits. Ce que je voulais dire, c'est que dans, par exemple, la mise en scène des guerres qu'on connaît actuellement dans les médias, il y a toute une mise en scène donc, qui est très manichéenne. On essaie de nous faire croire que, par exemple, les Américains nous fait tout un l'angélisme, voilà, c'est une guerre de religion. Or, c'est peut-être quelque chose de complètement juste une guerre commerciale. Il y a rien. C'est une guerre pour les ressources naturelles. C'est pas des guerres pour libérer des peuples et les libérer de la pauvreté ou d'autres choses. Je pense que ça a son écho dans la littérature et dans ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est que on ne veut pas forcément nous donner des choses qui nous nourrissent spirituellement, préfèrent nous donner des choses qu'on connaît, même si on les nomme autrement. Et il faut chercher au-delà, je pense, que la pensée manichéenne, même s'il peut y avoir des images qui sont très belles.
Je ne suis pas tout à fait, même pour tout dire, pas du tout d'accord avec votre analyse, parce qu'au contraire, il me semble que au cours de ces dernières décennies, jamais la presse n'a été moins manichéenne, y compris par exemple la presse américaine, qui est très hautement problématique quant aux interventions des États-Unis à l'extérieur. Et si vous lisez ce qui m'est arrivé, la presse française et allemande à l'occasion de la guerre de 1870 et a fortiori de la Première Guerre mondiale, alors là, vous avez vraiment un manichéisme assez terrifiant d'ailleurs. De nombreux livres d'historiens ont été publiés sur la question. Non, dans les démocraties actuelles en général, je ne dis pas que tout est parfait, mais en général, les images qui sont données sont complexes, enfin, et problématiques.
Oui, mais ça reste tout de même, après je passe le micro à quelqu'un d'autre, mais ça reste, comme le dit un peu Serge Danet, ça reste un catéchisme, vous voyez ce que je veux dire, un catéchisme télévisuel, même s'il n'est pas forcément... C'est une forme de manichéisme qui est instillé, c'est ce que je...
Écoutez, moi je lis beaucoup de presse internationale, je vous recommande entre autres la lecture du Courrier international, qui a d'ailleurs bien des aspects science-fiction de temps en temps, et cette diversité des opinions et des représentations me paraît très présente, alors que ça n'était pas du tout le cas dans les conflits dont je vous parlais tout à l'heure. Première Guerre mondiale, non, mais c'est effrayant le niveau auquel la quasi-totalité de la presse, de part et d'autre d'ailleurs, le niveau auquel ils se sont engagés, enfin c'est absolument terrifiant. Et en 70, ça a été la même chose, et avant peut-être, je connais pas. Non, maintenant, c'est devenu... y a une presse qui, dans les pays industrialisés et démocratiques, est quand même très critique, enfin très libre d'abord, et ensuite très, très critique. Non, et c'est peut-être une innovation importante, et en tout cas très intéressante.
Sans parler de manichéisme, je suis loin d'avoir votre culture, donc je... Mais je pense qu'il y a un point intéressant que vous soulevez, c'est ce qu'on appelle en français dans le texte le storytelling, qui est le storytelling, donc ce que la technique a très américaine de construire une histoire autour de messages qu'on veut faire passer et qu'on est en train de voir débarquer en France à grands pas d'ailleurs. Et il y a toute une question, effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur l'aspect mythique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que dans notre époque très postmoderne, très civilisée, on fonctionne à fond encore au symbole. L'attaque sur Pearl Harbor et la tragédie du World Trade Center, ce sont au sens, c'est nullement pour minimiser la chose, hein, c'est pas ça, mais ce sont des attaques symboliques. C'est-à-dire que ce sont des attaques qui, techniquement, en termes de purement et froidement comptable, sont des attaques sans réelle gravité, mais ce sont des attaques qui ont frappé les esprits et qui ont frappé la représentation mythique.
Et qui valide un scénario.
Tout à fait. Et qui ont frappé la représentation mythique que le pays avait de lui-même. Et ce sont donc des choses qui ont eu une portée et une influence absolument énorme et qui dépassent de très très loin la réalité de la chose. Ce sont des attaques. Et c'est là-dessus que, à mon sens, ce genre de choses, et c'est marrant de voir qu'au XXIe siècle, on fonctionne avant tout avec ça. C'est une question de mythogenèse.
Ah, si on m'y autorise, je vais revenir à l'histoire contemporaine, parce que j'ai vraiment un exemple de ça, alors je suis entièrement d'accord avec Lionel Davous, un exemple très personnel. En 1972, j'étais au Caire, où je représenterais plus ou moins le gouvernement français, ou du moins une de ses facettes. Alors donc on était en 1972, état d'extrême tension entre Israël et l'Égypte. Je discutais sur des points de détail avec des Égyptiens et des Syriens, enfin là n'est pas la question. Mais un an avant, on sentait venir une guerre qui allait être sévère, voire épouvantable, et qui a été la guerre de Kippour. J'en ai longuement discuté avec le remarquable ambassadeur français de l'époque, Bruno Deleuze, si je me souviens bien, et avec des, disons, des représentants américains. Et les Américains me disaient ceci. Moi, j'étais un peu naïf. Je me disais, si on peut éviter cette guerre, ça ne serait pas plus mal. On pourrait discuter avant. Les Américains me disaient ceci. Ils me disaient, vous avez raison. Vous avez absolument raison, humainement et moralement. L'unique problème, c'est que l'Égypte ne fera jamais la paix si elle ne gagne pas une guerre. Alors, on va la laisser faire cette guerre, et puis on verra. Et après, on négociera la paix. Il y a eu la guerre du Kippour en 1973. Les Égyptiens ont attaqué les batteries israéliennes le jour du Kippour au canon à eau, à la lance à eau. De la façon à détruire, ils ont relativement réussi, les fortifications de sable des Israéliens de l'autre côté du canal de Suez. Bon, ils se sont engagés dans le Sinaï, et puis ils ont pris une raclée épouvantable qui a été transformée en victoire. Effectivement, il y a eu négociation, il y a eu paix. 10 000 morts.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question ? On déborde un peu, mais comme les prochains ne sont pas justes. Ah si, ils sont justes. Ok, bon, on va peut-être s'arrêter là, du coup. Bah, merci beaucoup à...
Faute de combattants.
merci à vous quatre. Et à bientôt.